Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines sur la gestion des ruptures de contrat. Quelques mots pour commencer, pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique. C'est également un abonnement qui vous donne accès d'abord à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair, également à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes basée à La Rochelle, qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Et à leur sujet, à la fin de la webconférence, je vous proposerai de tester notre service en posant votre première question gratuitement. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Alice Thevenard, avocate au barreau de Paris, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous.
Merci à vous également et je suis ravie de participer à cette webconférence avec Jury Travail.
Merci. Donc, si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, j'ai deux collègues juristes, Alice et Alexandra, qui sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou des dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration de notre outil de webinaire. Et si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite à contacter Maître Thevenard, dont vous voyez les coordonnées sur la présentation en dessous des vidéos. Donc, nous avions mis, comme d'habitude, à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Donc, nous les avons transmises à Maître Thevenard qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes, nous essaierons de nous y tenir, mais le sujet est vaste, donc il n'est pas impossible qu'on déborde un petit peu. On va vraiment faire tout notre possible pour respecter le timing. Donc, vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Tout d'abord, les licenciements, puis la rupture conventionnelle. Enfin, la prise d'acte et la résiliation judiciaire, puis la démission. Donc, commençons tout d'abord avec la thématique des licenciements, avec une première question qui concerne le licenciement pour faute. Comment procéder à un licenciement pour faute et quels points de vigilance doivent avoir les employeurs pour éviter qu'il soit contesté?
Alors, tout d'abord, si vous me permettez, je vais aussi ajouter que vu le nombre de questions et vu le nombre de thèmes abordés, je ne peux pas rentrer dans un détail très fin sur les procédures et tous les cas. Donc, c'est vraiment plus de la vulgarisation qu'autre chose. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire appel aux juristes de Jury Travail ou à moi-même pour avoir plus de précisions. Alors, pour revenir sur le licenciement, les points de vigilance et sur le licenciement disciplinaire, en préambule, je voudrais rappeler que contrairement à une légende pseudo-juridique qui est assez répandue, un licenciement disciplinaire peut être engagé directement par l'employeur sans avoir au préalable adressé un ou plusieurs avertissements. En revanche, pour licencier pour motif disciplinaire, pardon, il faut qu'il y ait une faute. Mais il n'y a pas de définition légale de la faute, car cette notion est beaucoup trop vaste, trop floue et trop subjective. Le législateur s'est donc contenté d'indiquer que l'employeur pouvait sanctionner tout agissement du salarié qu'il considérait comme fautif. La faute peut reposer sur plusieurs griefs qui, isolés, ne caractériseraient pas une faute, mais cumulés ou conjugués, en constituent une. En outre, il existe plusieurs gradations de la faute. Tout d'abord, la faute simple ou légère, qui se caractérise par un comportement ou des actes fautifs du salarié qui ne sont pas d'une gravité suffisante pour mettre un terme immédiat à la relation de travail. Le salarié peut donc continuer à travailler tout au long de la procédure de licenciement et il a droit à un préavis après la notification. Ensuite, plus grave, vient la faute grave. C'est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle peut également justifier une mise à pied conservatoire et elle prive le salarié de préavis, d'indemnité, de licenciement. Enfin, la faute lourde, qui est celle commise par un salarié qui a une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Attention, l'intention de nuire doit être vraiment très clairement établie. Elle ne peut pas être déduite juste de la seule gravité ou des faits ou du seul préjudice par l'employeur. Les points de vigilance, donc, quand on veut mener une procédure pour licenciement disciplinaire, pardon, sont la bonne qualification de la faute, sachant qu'une qualification erronée rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation du salarié. Enfin, il faut respecter la procédure de licenciement classique pour motif personnel, avec malgré tout quelques petits points d'attention supplémentaires que je vais aborder, qui est d'abord le délai de sanction. En effet, la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire doit intervenir dans un bref délai, soit au plus tard dans les 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais pas forcément à la réalisation de la faute. L'entretien préalable se déroule normalement, donc avec une convocation, avec les mêmes mentions obligatoires, et le licenciement ne peut pas être prononcé moins de 5 jours ouvrables après la première présentation de la lettre de notification. En revanche, pardon, de la convocation à l'entretien préalable. Ensuite se déroule l'entretien préalable, puis la notification au licenciement qui, elle, donc, doit intervenir après un délai de 2 jours ouvrables. En revanche, dans un licenciement pour motif disciplinaire, la notification doit être faite dans un délai d'un mois à compter du licenciement pré du licen de
De
l'entretien préalable,
l'entretien
pardon.
préalable.
Voilà. Attention, comme dans tout licenciement, les motifs énoncés fixent les limites du litige. Donc, il faut être bien précis dans la lettre et bien qualifier les faits et bien les motiver et les démontrer.
Très bien, merci beaucoup. Donc, abordons maintenant un autre type de licenciement. Le licenciement pour cause de désorganisation de l'entreprise. Nous avons eu plusieurs questions sur le sujet. Ce type de licenciement intervient entre autres suite à un très long arrêt maladie avec obligation de remplacer la personne. Quand et comment, pardon, mettre en place cette procédure et comment gérer le préavis qui ne pourra pas être effectué? Et enfin, comment calculer le salaire de référence dans la mesure où le salarié a été absent depuis très longtemps de l'entreprise?
Alors, le licenciement pour absence répétée ou prolongée peut être mis en œuvre lorsque les absences perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et obligent l'employeur à pourvoir à un remplacement définitif et total sur le poste concerné. La cause du licenciement, attention, doit bien être la désorganisation. Ça ne peut jamais être la maladie du salarié. L'employeur doit bien établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans le fonctionnement et la marche de son entreprise. Il doit démontrer qu'il a été contraint de procéder au remplacement définitif du salarié. Il doit démontrer qu'il a procédé au remplacement total du salarié. Ou alors, si le remplacement n'est pas encore fait, il doit procéder à ce remplacement dans un délai raisonnable. La jurisprudence considère qu'un délai raisonnable est un délai de 6 mois. L'employeur doit également justifier en quoi il ne pouvait pas recourir juste au travail temporaire en l'attente du retour du salarié. Concernant le point spécial du préavis, c'est un point qui peut être un peu compliqué, donc je vous invite à demander plus de précisions. Mais grosso modo, ce licenciement est assorti d'un préavis. Plusieurs cas de figure se présentent. Sous réserve de disposition des conventions collectives qui peuvent être toujours plus favorables
Plus
et qui à
favorable.
ce moment-là doivent toujours être appliquées. Soit le salarié n'est pas en mesure d'exécuter son préavis, alors il n'est pas rémunéré. Soit l'employeur le dispense de l'exécution de ce préavis et le salarié perçoit l'indemnité compensatrice de préavis. Soit le salarié est revenu entre-temps pendant une durée suffisante et peut exécuter ce préavis. À ce moment-là, il l'effectue. En cas de contestation, pour finir juste sur ce petit sujet, les juges vont apprécier la désorganisation avec tout un faisceau d'indices qui seront liés à la taille de l'entreprise ou du service concerné, à la nature de l'emploi, notamment si la personne est très qualifiée ou si son poste est vraiment indispensable, un cœur de métier, la durée d'absence et le caractère imprévisible de ces absences. Ensuite, vous m'aviez posé donc une question sur le calcul du salaire de référence. Normalement, pour tout calcul de salaire de référence, pour tout calcul d'indemnité, on prend soit un douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit un tiers des 3 derniers mois et on applique la formule la plus favorable. Pendant longtemps, la jurisprudence considérait qu'il fallait reconstituer le salaire de la personne absente sur ces 12 derniers mois ou sur ces 3 derniers mois pour arriver à la moyenne la plus favorable. En 2017, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a jugé qu'il fallait prendre en compte, selon toujours la formule la plus avantageuse pour le salarié, les 12 ou les 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Alors ça résout pas vraiment le problème des arrêts multiples, mais on peut considérer, on n'a pas la solution pour l'instant, en tout cas pas définitive, à partir de cette jurisprudence, dont l'objectif était clairement de prévenir des discriminations en raison de l'état de santé des salariés, qu'il faut revenir plutôt à chaque fois, pardon, les périodes travaillées pour un total de 12 mois ou un total de 3 mois et calculer les indemnités selon la moyenne la plus avantageuse toujours.
Très bien, merci beaucoup. Et donc, vous avez insisté sur le remplacement du salarié. C'est vraiment très important. Il ne s'agit pas de répartir les tâches dont il s'occupait sur différents salariés de l'entreprise, mais bien de
Absolument pas.
procéder à une embauche.
Un remplacement total et définitif avec embauche, oui.
Autre question qui nous a été posée à plusieurs reprises, quelles sont les procédures à respecter pour licencier un salarié protégé?
Alors, pour un petit rappel en préambule, les salariés protégés sont tous les élus de l'entreprise, donc les CSE, les représentants du personnel, le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale, RSS. Également, le salarié qui a demandé l'organisation d'élections ou dont l'employeur ne pouvait ignorer que sa candidature était imminente. Enfin, il y a aussi les conseillers prud'homaux et d'autres catégories qu'on va passer. Pour mémoire, la protection s'applique aux titulaires comme aux suppléants. Et évidemment, la procédure de licenciement, c'est la procédure habituelle, donc convocation EPL, notification, respect des délais. Néanmoins, si un CSE existe, celui-ci doit être consulté après l'entretien préalable. Le CSE donne alors son avis sur le licenciement après avoir auditionné le salarié. Et après, l'employeur doit demander à l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié protégé. Cette demande d'autorisation est adressée dans les 15 jours qui suivent la délibération du CSE et le procès-verbal de la réunion de CSE avec son avis favorable ou défavorable doit être annexé. En revanche, quand il n'y a pas de CSE, on ne peut pas consulter le CSE, donc l'employeur va directement transmettre une demande d'autorisation à l'inspection du travail après l'entretien préalable, toujours. L'inspecteur du travail disposera, lui, d'un délai de 2 mois au cours desquels il va pouvoir procéder à une enquête contradictoire, au cours de laquelle il pourra auditionner personnellement et individuellement le salarié et l'employeur et recueillir leurs arguments et explications. Et au terme de ce délai de 2 mois, il donne son autorisation, sachant que le silence de l'inspection du travail, pardon, vaut rejet.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, autre type de licenciement sur lequel nous avons été beaucoup interrogés également, le licenciement pour inaptitude. Donc, comment se déroule-t-il? Et j'y ajoute également une question très précise qui nous a été envoyée. Donc, à la suite d'un accident du travail, une salariée a été reconnue inapte, mais le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude professionnelle n'a pas été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, l'indemnité de licenciement doit-elle être doublée dans ce cas?
Alors, reprenons l'inaptitude en général. L'inaptitude est constatée par la médecine du travail, qui est seule juge de la santé du salarié. Et cette procédure peut être déclenchée à la suite de toute visite médicale. Au cours des entretiens ou examens avec le médecin du travail, celui-ci va procéder à une étude du poste du salarié et de ses conditions de travail. Il va échanger également avec lui sur les mesures éventuelles qui peuvent être prises pour aménager, adapter ou buter son poste. Le médecin du travail va également échanger avec l'employeur sur l'issue de la procédure, l'employeur restant libre de faire ses observations sur l'avis et les propositions du médecin du travail. À l'issue de cette procédure, et seulement si le médecin du travail a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'était possible, alors il pourra être déclaré inapte à son poste de travail. L'inaptitude peut être professionnelle si elle est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Sinon, l'inaptitude est non professionnelle. Enfin, l'inaptitude peut également être totale ou partielle. Dans ces derniers cas, ça ouvre droit à des limitations thérapeutiques qu'on ne va pas aborder ici. Après avoir reçu l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur doit consulter les représentants du personnel s'il existe avant de tenter de reclasser le salarié ou de le licencier s'il n'arrive pas à trouver une solution de reclassement. L'avis des représentants du personnel n'engageant absolument pas l'employeur. À partir de la réception de l'avis d'inaptitude, l'employeur ne peut plus faire travailler le salarié et il en résulte une règle assez curieuse, c'est que pendant un mois, il est dispensé de verser le salaire, ce mois-là correspondant à la période pendant laquelle il doit reclasser le salarié. Si au terme de ce mois, il n'a pas réussi à reclasser son salarié ou il n'a pas licencié son salarié, il doit reprendre le versement de salaire. Les recherches de reclassement sont faites au niveau de l'entreprise et l'employeur est tenu de respecter l'ensemble des recommandations du médecin du travail. L'obligation de remplacement n'est pas une obligation de résultat. En revanche, l'employeur devra être en mesure de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de bonne foi et sérieusement. Donc, soit on trouve un reclassement, soit on n'en trouve pas, sachant qu'on peut poursuivre la procédure de reclassement au-delà de ce délai d'un mois. L'employeur peut procéder au licenciement pour inaptitude. Dans le cas spécifique d'un licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, c'est comme le licenciement normal, entre guillemets, pour motif personnel, on procède à la consultation du CSE, autorisation de l'inspection du travail, etc. Concernant le point spécifique de l'indemnité de licenciement pour inaptitude, si l'aptitude est non professionnelle, sauf convention plus favorable, l'indemnité de licenciement est de un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de 10 ans. En cas d'inaptitude professionnelle, sauf convention plus favorable toujours, l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude est le double de l'indemnité légale de licenciement. Quand le salarié est licencié pour inaptitude, il est dispensé d'effectuer son préavis puisqu'il n'est pas apte à le réaliser. Néanmoins, il y a encore une distinction selon si l'inaptitude est d'origine non professionnelle. À ce moment-là, il n'y a pas d'indemnité compensatrice de préavis. En revanche, en cas d'inaptitude professionnelle, il reçoit son indemnité de préavis. Enfin, pour revenir sur votre question très particulière, très spécifique, qui ressemble vraiment à un cas réel, sur les conséquences de l'indemnité de licenciement en cas de refus de reconnaissance par la CPAM du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude professionnelle, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation de 2017 que peu importe que la CPAM ait ou non reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail, il faut appliquer les règles applicables à l'inaptitude professionnelle. En l'espèce, il faudra bien doubler les indemnités de licenciement.
D'accord, très bien, c'est très clair, merci beaucoup.
Merci.
Alors, autre cas qui n'est pas vraiment un licenciement, mais qui aboutit quand même, j'imagine, 9 fois sur 10, si ce n'est 10 fois sur 10, à un licenciement. Comment gérer un abandon de poste? Et autre question précise qui nous a été envoyée, existe-t-il des délais à respecter entre l'envoi de chaque courrier par l'employeur au salarié ayant abandonné son poste?
Alors, tout d'abord, un salarié qui s'absente de son poste a normalement 48 heures pour justifier de son absence. C'est généralement le délai de transmission de l'arrêt de travail. Donc, on lui laisse 48 heures pour se justifier. C'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, on va tenter par tout moyen, ça peut être en lui téléphonant, en lui envoyant des mails sur sa boîte mail personnelle, en éventuellement contactant ses collègues amis pour essayer de savoir ce qui se passe s'il est là. Donc, on fait une petite enquête. En général, cette enquête, elle peut durer un jour, 2 jours. Donc, en gros, on peut considérer qu'au bout de 3, 4 jours d'absence, on peut commencer à agir contre ce salarié qui ne justifie pas de son absence. À ce moment-là, on va lui adresser une mise en demeure dans laquelle on lui rappellera qu'il est absent depuis telle date et on le mettra en demeure de fournir un valable d'excuse ou d'absence ou bien de reprendre son poste à une date déterminée. C'est l'employeur qui fixe cette date. En revanche, faites bien attention, cette lettre, elle est acheminée par voie postale, donc on prend en compte les délais postaux, on ne lui met pas une date à 2 jours ou à 3 jours. Plus souvent, on met entre 4, si on est sûr des délais postaux, et 8 jours. Ensuite, il y a une date. Si à cette date, le salarié n'a pas justifié de son absence ou des parvenus, on peut engager une procédure de licenciement pour motif disciplinaire selon la procédure qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà. Et ensuite, au terme de cette procédure, on peut le licencier, sachant que le licenciement peut être fait pour faute simple ou pour faute grave, et que plus on attend pour sanctionner, moins la faute grave sera justifiée.
Très bien, merci. Ça, effectivement, cette petite précision est utile en cas de litige ultérieur.
Oui.
Alors, une question qu'un élu nous a fait parvenir pour terminer cette partie sur le licenciement individuel. Comment assister à un salarié lors d'une procédure de licenciement?
Donc, la convocation à OPL doit toujours indiquer cette faculté pour le salarié de se faire assister. L'omission de cette mention rend la procédure totalement irrégulière. Donc, vigilance là-dessus. La mission de l'assistant du salarié est de conseiller le salarié pendant l'entretien préalable. Bien entendu, cette mission commence en amont, dès lors que le salarié a reçu sa convocation. L'assistant va vérifier la régularité de la convocation. Il va également rencontrer le salarié afin de comprendre la situation, connaître les motifs. Souvent, le salarié les connaît quand même un petit peu, recueillir ses arguments et l'aider à préparer sa défense. Ensuite, il peut également expliquer le processus de licenciement parce que tous les salariés ne sont pas des habitués du licenciement. Pendant l'OPL, évidemment, c'est là que se joue le gros du rôle de l'assistant du salarié. Il participe au débat, il a le droit de poser des questions, il a le droit de demander des précisions à l'employeur, aussi aux salariés. Il peut compléter les explications du salarié, l'aider à reformuler. Et il a également le droit de rappeler à l'employeur certaines de ses obligations. En revanche, l'employeur n'est jamais tenu de communiquer une quelconque pièce à l'appui de la sanction qu'il envisage. On recommande à l'assistant du salarié de prendre des notes car le compte-rendu d'entretien qu'il va établir est recevable en justice. C'est le juge qui appréciera sa valeur et sa portée. Donc, soyez objectif, soyez précis. Et je vous rappelle que l'indication de faits matériellement inexacts peut engager la responsabilité pénale de son auteur. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Et l'assistant du salarié est tenu au secret professionnel et a une obligation de discrétion, malgré tout, sur les informations qui lui ont été communiquées par l'employeur.
Très bien, merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, il nous reste 20 minutes et donc nous allons aborder maintenant le licenciement économique. Quelles sont les conditions à remplir et les étapes à respecter dans le cadre d'un licenciement économique avec et sans plan social, enfin plan de sauvegarde de l'emploi, pardon.
Alors, je vais essayer d'aller très, très, très vite puisque l'heure tourne. Le motif économique est strictement défini par le Code du travail. Donc, pour plus de précision, je vous invite à vous rapprocher de nous. En revanche, la situation doit pas, de l'entreprise n'est pas nécessairement catastrophique. Mais les difficultés rencontrées doivent être réelles et sérieuses. L'application du PSE dépend du type de licenciement et il est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés minimum quand le projet de licenciement concerne 10 salariés minimum sur une période de 30 jours consécutifs. Dans les autres cas, il n'est pas obligatoire. Le PSE doit prendre un nombre en compte, pardon, un certain nombre de mentions obligatoires qui sont également prévues par la loi, qui vise le reclassement interne ou externe, la reprise d'activité, les mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail qui peuvent être mises en place, le congé de reclassement ou le CSP selon la taille de l'entreprise également, etc. Et un plan de redressement pour les salariés dont les caractéristiques sociales rendent la réinsertion particulièrement difficile. L'employeur peut ajouter des mentions facultatives comme les primes d'incitation au départ volontaire, des congés de reconversion, etc., etc. Le PSE résulte d'un accord collectif conclu avec le CSE, soit en l'absence de CSE ou s'il n'y a pas eu d'accord du CSE, d'une décision de l'employeur. Mais dans les deux cas, il doit être validé par le PSE pour pouvoir entrer en vigueur. Et
Par
seulement après cela.
la directe, pardon.
Pardon, le direct, excusez-moi.
Oui.
PSE, CSE, direct. Qui s'appelle de DR2E,
DRE,
DR2, c'est
par
horrible.
Dretz ou
Ouais.
Dritz, je ne sais pas trop encore comment
Dretz,
ça se prononce.
ouais, c'est affreux. Ils nous trouvent toujours des noms horribles. Après, avec ou sans PSE, de toute façon, l'employeur est tenu à un certain nombre d'obligations dans le cadre d'un licenciement économique. Il doit déterminer les critères d'ordre du licenciement, qui sont définis par la loi, c'est les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés dont la situation rend la réinsertion très difficile, et les qualités professionnelles par catégorie de salariés. Il peut ajouter d'autres critères et certains critères peuvent être privilégiés ou pondérés. L'employeur a également une obligation de reclassement. Cette obligation de reclassement est une obligation ferme car il ne peut pas y avoir de licenciement si les efforts de formation et d'adaptation et de reclassement n'ont pas été faits. La méconnaissance de cette obligation de reclassement prive le licenciement de causes réelles et sérieuses. Et enfin, en fonction des effectifs, l'employeur doit proposer soit un CSP, contrat de sécurisation professionnelle, soit un congé de reclassement. Le CSP concerne les entreprises de moins de 1 000 salariés ou celles en redressement ou liquidation judiciaire. Ce CSP doit être proposé à chaque salarié dont on envisage le licenciement par la remise d'une documentation d'information au moment de l'entretien préalable ou quand le PL n'est pas obligatoire à l'issue de la dernière réunion du CSE ou en cas de PSE après notification par l'administration de sa décision de validation. Si l'employeur ne propose pas le CSPE, il risque d'être redevable envers Pôle emploi d'une contribution qui est égale à 2 mois de salaire. Pôle emploi proposera à ce moment-là le CSP et si le salarié l'accepte, c'est 3 mois de salaire. Donc, tout intérêt à le présenter au bon moment. Le salarié a 21 jours pour accepter ou refuser ce contrat de sécurisation professionnelle. L'absence de réponse vaut refus. Et à ce moment-là, si le salarié adhère au CSP, le contrat de travail est rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion qui est de 21 jours. L'adhésion au CSP prive des droits au préavis, car les sommes correspondantes vont servir à financer le dispositif par Pôle emploi. Le congé de reclassement, je vais aller encore plus vite, concerne les entreprises de plus de 1 000 salariés. Pareil, c'est au moment de l'entretien préalable ou au moment de l'acceptation par le CSE ou au moment de la validation par l'inspection du travail que l'information doit être proposée. Le salarié, lui, il a un délai de 8 jours à compter de sa notification de licenciement pour accepter. S'il accepte le congé de reclassement, il y a encore d'autres délais, il y a mais ensuite, il bénéficie de tous les avantages que je ne vais pas détailler sur ce congé de reclassement.
Très bien. Et alors, juste une petite précision, parce que la question nous a été posée par rapport au contrat de sécurisation professionnelle. À quel moment l'employeur doit fournir aux salariés l'attestation Pôle emploi? À la signature du CSP, à la date de fin de contrat, à l'entretien préalable, ça doit intervenir à quel moment?
L'employeur doit toujours remettre les documents de fin de contrat à la rupture, à la date de rupture du contrat de travail. Donc, le contrat de travail qui prend du salarié qui accepte le CSP à la date d'expiration du délai de réflexion. Ah, pardon. Dès lors que le salarié a accepté le CSP, le contrat de travail prend fin d'un commun d'accord à la date d'expiration du délai de réflexion et le CSP commence le lendemain. Donc, c'est à ce moment-là, à la date d'expiration, qu'on remet les documents de fin de contrat. De contrat, pardon. Excusez-moi,
Très
j'ai
bien.
bafouillé.
C'est pas grave. Merci beaucoup. Alors, autre question très pratique sur les licenciements économiques, ça concerne les critères d'ordre. Peut-on retenir comme critère d'ordre le volontariat des salariés?
Je ne pense pas. Je n'ai pas la réponse ferme et définitive sur le sujet, mais je voudrais aborder du coup à ce sujet parce qu'il existe un autre système. Ça s'appelle le plan de départ volontaire. Et une entreprise peut parfaitement proposer à ses salariés un plan de départ volontaire, PDV, plutôt que de procéder à des licenciements. Le PDV n'est ni une démission, ni un licenciement, ni une rupture conventionnelle. C'est quelque chose d'autre. Et le principe de l'ordre de licenciement prévu pour les licenciements économiques ne s'applique pas dans le PDV, sauf si l'employeur s'engage à les mettre en place et à les respecter. Donc pour moi, c'est vraiment le volontariat me paraît un critère, je ne sais pas, à creuser.
Oui, et puis enfin bon, là ce n'est qu'un avis personnel et pas juridique. Le volontariat, ça peut être dangereux
Voire
parce
plus.
qu'un salarié dont vous ne souhaiteriez pas qu'il parte pourrait se porter volontaire et vous seriez embêté pour pouvoir lui refuser ce droit dans ce genre de conditions.
Ouais, tout à fait.
Mais là, ce n'est pas du juridique, c'est juste du bon sens.
Non.
Et souvent,
Oui.
le bon sens a une grande part à jouer, enfin, joue un rôle important dans le juridique.
Tout à fait.
Alors, abordons maintenant la rupture conventionnelle. Pouvez-vous donc nous expliquer les différentes étapes d'une rupture conventionnelle, quels sont les différents délais à respecter et nous dire également si la procédure est différente pour un salarié protégé?
La rupture conventionnelle s'articule autour de un ou plusieurs entretiens préalables auxquels le salarié peut se faire assister, ainsi que l'employeur, mais seulement si le salarié lui-même est assisté. Il n'y a aucun formalisme de convocation, on n'a pas besoin de faire un écrit pour convoquer, il n'y a pas de délai particulier entre les entretiens, car il n'y a pas de délai de réflexion imposé par la loi à ce stade. La convention, d'ailleurs, peut être signée dès la fin d'un entretien unique. En revanche, pour rappel, en l'absence d'entretien, la rupture conventionnelle est nulle. Ensuite, on signe le formulaire CERFA de rupture conventionnelle, soit sur papier, soit en le téléchargeant, soit directement sur le portail. Ce CERFA doit impérativement contenir un certain nombre de mentions. Il y a des cases, hein, donc il suffit de les remplir. Mais c'est le montant de l'indemnité de rupture, la date de rupture du contrat et la date de signature. Ce sont des mentions qui sont très, très importantes. À compter de la signature de ce formulaire, là, oui, il y a un délai qui est de 15 jours calendaires pendant lesquels les deux parties peuvent se rétracter. Si ce délai expire un samedi, dimanche, jour chômé, jour férié, c'est reporté au prochain jour ouvrable. À compter du lendemain de la fin de ce jour, de ce délai de rétractation, on peut envoyer le formulaire à l'administration qui, elle, va disposer d'un délai de 15 jours ouvrables pour homologuer la signature, la rupture, pardon. Ce délai commence bien à la date de réception du CERFA par l'administration. Donc, si vous envoyez le CERFA par courrier, prenez bien en compte les délais postaux. Moi, personnellement, je rajoute toujours au moins 3 jours. En cas de refus d'homologation, le contrat de travail se poursuit. Il ne faut surtout pas remettre les documents de fond de contrat avant cette date de rupture, qui est donc le lendemain de la date d'homologation, car sinon, on pourrait la rupture est nulle. Et dans ce cas-là, les parties peuvent tout à fait recommencer toute la procédure, mais il faut tout recommencer avec délai de rétractation et délai d'homologation. Avec un salarié protégé, grosso modo, c'est la même chose qu'avec les licenciements. Il faut consulter le CSE. En revanche, il faut utiliser un CERFA spécifique de rupture conventionnelle avec salarié protégé. Il comporte une mention relative à la date de consultation du CSE et une information sur l'avis qui a été rendu par celui-ci, c'est-à-dire favorable ou défavorable. Pareil, il y a un délai de rétractation qui est le même. Et ensuite, on demande l'autorisation à l'inspection du travail, qui, elle, peut engager une enquête contradictoire qu'elle va mener dans un délai de 2 mois, au terme duquel elle va rendre son avis, enfin, son autorisation ou non, sachant que le défaut de réponse pendant 2 mois vous rejette. Et si la... Pardon, allez-y.
Très
Allez,
bien. Alors,
c'est bon, c'est
je
bon.
voulais juste ajouter une petite précision, puisque c'est un souci qu'on a eu, nous, chez Jury Travail. On a beau travailler, enfin, être dans le secteur, il nous arrive aussi de commettre des erreurs. Tous les votes des CSE, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle d'un salarié protégé, les votes doivent se faire à bulletin secret. Sinon, vous êtes obligé de recommencer la consultation du CSE et on repart dans le cirque infernal.
Tout à fait. Tout à fait.
Alors, à la lecture de certaines questions qui nous ont été envoyées, il existe une confusion chez certains de nos internautes entre la rupture conventionnelle et la rupture transactionnelle. Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors, en fait, la rupture transactionnelle n'existe pas. Il y a une rupture conventionnelle, ça, on en a parlé. Sinon, on peut tout à fait conclure une transaction, un protocole transactionnel. Et ce protocole vient résoudre des conflits relatifs soit à la rupture, soit à un problème lors de l'exécution du contrat. On peut tout à fait avoir, voilà, sans mettre fin au contrat de travail, avoir un conflit avec son employeur et faire un protocole transactionnel, pardon, pendant l'exécution du contrat. Pour rappel, une transaction donc doit bien rapporter qu'il y a un désaccord entre les parties. Et doit toujours impliquer des concessions réciproques et réelles de chacune des parties. Et l'intérêt de la transaction, c'est qu'elle empêche l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et éteint définitivement les contestations qui y sont traitées. En revanche, les autres demandes restent recevables.
Que peut faire un employeur lorsqu'un de ses salariés souhaite quitter l'entreprise, mais qu'il refuse de donner sa démission, alors que lui, en tant qu'employeur, refuse toute idée de rupture conventionnelle? C'est un cas
Alors là,
assez classique et on traitera du cas inverse.
un grand cas. On ne peut rien faire de particulier si chacun reste sur ses positions. C'est souvent des questions de principe, hein. S'il veut partir, il n'a qu'à démissionner. OK. Moi, ce que je recommande à un employeur dans ces cas-là, c'est de prendre des éléments tout simplement financiers, c'est-à-dire que le salarié va rester, va falloir payer ses salaires. Avec les charges. Il peut rester très longtemps. On n'aura peut-être pas forcément un motif pour le licencier. Donc, on va rester comme ça et ça va durer. Et le salarié ne veut pas partir. Il sera en plus peut-être un peu démotivé, mais pas au point de se faire licencier. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire une petite analyse financière par rapport au coût d'une indemnité de rupture spécifique de conventionnelle. Voilà.
Très bien,
Parfois, il
merci. Et
faut
donc,
s'asseoir sur ces principes, ouais.
oui, je suis d'accord, d'autant qu'un salarié démotivé dans une équipe a vite fait de
Oui.
contaminer tous les autres autour.
Tout à fait.
Et comment gérer donc le refus d'un salarié d'une rupture conventionnelle qui serait à l'initiative de l'employeur? Donc là, c'est la situation inverse est tout aussi classique.
Tout aussi classique, bah rien, on ne peut pas le forcer. La rupture conventionnelle est une rupture d'un commun accord. Donc, si vous n'avez pas de motif pour licencier correctement votre salarié, bah, vous pouvez continuer à négocier, alors ensuite lui proposer une indemnité plus élevée, mais il faut prendre en compte à ce moment-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le différé spécifique d'indemnisation auprès de Pôle emploi qui porte sur les indemnités supralégales. Donc, voilà, c'est vraiment une question de calcul.
D'accord, très bien. Alors, très rapidement, parce que vraiment l'heure tourne, je suis désolée, on va avoir quelques minutes de retard, mais je vous assure qu'il reste beaucoup moins de questions, hein, je vous rassure. Quels sont les bons réflexes à avoir pour un représentant du personnel dans l'accompagnement d'un salarié qui souhaite obtenir une rupture conventionnelle?
Bah, s'assurer de son consentement. Et puis, pour moi, bah, vérifier les calculs de l'indemnité spécifique, donc la moyenne des 12 ou 3 derniers mois multipliée par l'ancienneté, s'assurer des dates et des délais. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire, je pense.
D'accord, merci. Maintenant parlons de la rupture conventionnelle collective. Quelles sont les différentes étapes et peut-on y avoir recours en l'absence de délégué syndical dans une entreprise?
Alors, un accord collectif validé par la directe peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement. Une loi de février 2018 a étendu la possibilité de conclure des RCC à toutes les entreprises, donc y compris celles qui n'ont pas de CSE, a fortiori de délégués syndicaux. Le contenu de l'accord, je vais essayer d'aller vite, hein, donc les modalités et conditions d'information du CSE s'il existe, le nombre maximal de départ, la période, les conditions pour bénéficier de cette rupture, les modalités de présentation et d'examen des candidatures, les modalités de conclusion de la convention individuelle de rupture, les modalités de calcul de l'indemnité de rupture, de départage entre les candidats au départ, l'accompagnement, le reclassement des salariés, le suivi de la mise en œuvre et la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques. Cet accord est transmis à la directe, qui ne va pas contrôler les modalités de mise en œuvre, mais s'assurer que l'ensemble des clauses obligatoires sont présentes. L'absence de réponse de la directe, pour une fois, vaut décision implicite de validation. Et s'il y a refus, on peut refaire un nouvel accord. La rupture du contrat de travail passe par l'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié au départ. Il a droit, le salarié, aux indemnités de rupture prévues par l'accord et aux allocations d'assurance chômage. La convention individuelle de rupture va juste préciser avec exactitude la date de rupture du contrat de travail.
D'accord, très bien. Alors, une question qu'un employeur nous a envoyée en cas de difficultés financières, et on sait qu'en cette période, de nombreuses entreprises malheureusement en rencontrent, que vaut-il mieux privilégier, la rupture conventionnelle collective ou le licenciement économique?
Alors en fait, pour rappel, le licenciement économique est très encadré par la loi et répond à des motifs économiques qui sont très précis. Donc, au-delà des avantages que ça représente pour le salarié, qui sont le contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche, l'absence de différé d'indemnisation de sans chômage, les obligations de reclassement, etc., etc. Alors qu'une rupture conventionnelle est plus facile puisque c'est une négociation, malgré tout, il faut faire attention au risque de différé d'indemnisation. Certes, la procédure est moins lourde. Certes, le licenciement économique peut être contesté devant le conseil des prud'hommes. Et bon, peut-être qu'en fait, la solution, elle est plutôt sur la réalité des motifs économiques. dans la mesure où le licenciement économique est très, très encadré, peut-être que si on remplit pas tous ces motifs économiques, mais que la situation de l'entreprise est vraiment difficile malgré tout, peut-être s'orienter vers ce type de rupture.
D'accord, très bien. Alors, abordons maintenant la prise d'acte et la résiliation judiciaire de manière de mettre un terme à un contrat de travail qui sont assez méconnus. Comment se déroulent ces deux procédures et dans quel cas un salarié peut-il y recourir, puisque cette fois-ci, c'est le salarié qui est à l'initiative?
Tout à fait. Dans les deux cas, seul le salarié peut y recourir. Et d'ailleurs, en cas de prise d'acte par un employeur, la rupture s'analyserait systématiquement en un licenciement abusif. Donc, c'est que le salarié qui peut le faire. La prise d'acte, c'est un salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations et qui donc prend acte de la rupture de son contrat de travail. Ça entraîne la cessation immédiate du contrat. Il n'y a pas d'exécution du préavis. Derrière, l'employeur doit remettre absolument les documents de fin de contrat, qu'il soit d'accord ou pas avec cette prise d'acte, et il appartient au salarié de saisir le juge pour que celui-ci statue sur finalement la qualification de sa rupture. Soit les juges vont considérer que la rupture n'est pas justifiée par des manquements suffisamment importants pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors à ce moment-là, eh ben, ça sera considéré comme une démission avec toutes les conséquences pour le salarié. Soit le juge considère que les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour maintenir le contrat de travail. Et à ce moment-là, cette rupture aura toutes les conséquences liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, le barème Macron, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et éventuellement des dommages et intérêts. Pour ce qui concerne la résiliation judiciaire, en fait, le salarié reste salarié de l'entreprise. Il n'y a pas de rupture pendant toute la durée de la procédure. C'est pareil, le salarié reproche un certain nombre de manquements à son employeur et demande à un juge de statuer sur cela. Si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de sa décision à lui, donc jugement de prud'homme. Et ça produit les effets d'un licenciement sans cause réelle, sans cause réelle et sérieuse ou nulle. Si les manquements de l'employeur ne sont pas établis ou insuffisamment graves, le juge va débouter le salarié et le contrat de travail se poursuit. Pour information pour les employeurs, l'employeur ne peut absolument pas tirer argument de cette action en justice pour derrière licencier son salarié.
Oui, je pense qu'effectivement, après, en cas de recours au prud'homme, ça pourrait être
Voilà, ça pourrait être
très bien
compliqué.
interprété.
Oui.
Alors, si la décision d'une résiliation judiciaire se fait attendre, le salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail après avoir initié la première procédure? On imagine que, après avoir initié une résiliation judiciaire, l'ambiance de travail risque d'être un peu détériorée. Et là, enfin, y rester risque d'être compliqué sur la durée, quoi.
Tout à fait. Et ben tout à fait. Le salarié peut tout à fait prendre acte de la rupture de son contrat de travail pendant l'instance pour résiliation judiciaire pour les mêmes faits ou pour d'autres faits ou des faits nouveaux. Et à ce moment-là, le juge va examiner l'ensemble des griefs et se prononcer en fonction
Très bien.
de son
Alors.
appréciation souveraine.
Ah, tout à fait.
Toujours.
Alors, une petite question et une dernière question sur la démission. C'est la seule question qui nous a été envoyée à ce sujet. Quelles sont les démarches obligatoires à effectuer pour un employeur dans le cadre d'une démission? Et si le contrat de travail ne prévoit pas de préavis, le salarié peut-il quitter l'entreprise au moment même où il annonce son départ? Là, ça sent
Alors,
la question concrète
la
vécue.
concrète est vécue, tout à fait. Il n'y a pas de démarche obligatoire pour une démission, il n'y a pas vraiment de règle de forme. L'écrit reste quand même recommandé pour avoir une preuve. Elle entraîne automatiquement la rupture définitive du contrat de travail et marque le point de départ du préavis, parce qu'il y a un préavis en principe. Si le contrat de travail ne fixe pas la durée du préavis, c'est d'ailleurs souvent le cas, les contrats de travail ne l'indiquent pas toujours, il faut s'en remettre à la loi qui définit alors trois cas. Donc on va, voilà, très spécifique. Sinon, en général, c'est la convention collective. Donc en principe, non, le salarié ne peut pas quitter l'entreprise, il ne peut pas remettre sa lettre de démission et partir. Il doit exécuter son préavis, les relations de travail sont maintenues. Chacun doit exécuter ses obligations normalement. Le salarié est tenu d'accomplir ce préavis. Il peut même être condamné à verser une indemnité à l'employeur s'il ne le fait pas, même si l'employeur n'a subi aucun préjudice. Attention.
D'accord, très bien. Voilà, donc nous
Allez, on a
arrivons.
6 minutes de retard.
Oui, nous arrivons au terme de cette webconférence. Je vous remercie beaucoup, maître. J'espère que ce format vous aura plu. Je m'excuse encore pour les quelques minutes de retard. Donc, n'hésitez pas à contacter maître Thevenard pour tout conseil juridique. Mes collègues vous envoient également une URL qui vous permettra de poser des questions également à nos juristes de La Rochelle. J'invite également donc les élus à nous rejoindre dans les deux groupes privés sur Facebook ou sur LinkedIn, où nous pourrons continuer les échanges. Mes collègues vous transmettent actuellement les liens sur le chat. Merci encore à vous, Maître Thevenard, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. Je vous dis au revoir et à
Merci à
bientôt.
vous. À très bientôt. Merci. C'était un plaisir. Je vous assure que dans ma cuisine, je tenais 45 minutes. On est parti pour un peu.
J'en doute pas, j'en doute pas. Et je vous donne rendez-vous à tous donc pour notre prochaine webconférence le 29 juin, qui traitera d'un sujet dont on a énormément parlé tous ces derniers mois, le document unique d'évaluation des risques. Donc là aussi, mes
Très
collègues vous
important.
transmettent le lien pour vous inscrire à cette prochaine webconférence dans le chat. Voilà, je vous dis au revoir à tous.
Au
Et à
revoir,
très
merci.
bientôt pour une prochaine webconférence. Au revoir.
Merci, au revoir.